Vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de choc.ca.
Bonjour, bienvenue à l'émission des Apatrides Anonymes du 9 avril 2020 sur choc.ca. Les Apatrides Anonymes, votre humble référence pour tout ce qui concerne les frontières, les migrations, le racisme, la paranoïa sécuritaire, ici comme ailleurs. C'est notre 24e édition, c'est la deuxième fois qu'on préenregistre, comme on a fait il y a 2 semaines en raison de la pandémie qui fait en sorte que toutes les institutions sont fermées. Tous les segments sont préenregistrés séparément, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interaction entre les Apatrides Anonymes qui sont, peut-être que vous ne connaissez, donc moi-même, Simon, ainsi que Marie-Ève et Mathieu, qu'on va entendre tout au long de l'émission, qui nous ont préparé plein de contenus à saveur locale, mais surtout international. Au menu aujourd'hui, un récapitulatif sur l'accès aux services pour les personnes migrantes au Québec en temps de crise, les prisons pour personnes migrantes dans le contexte particulier de la pandémie. Il y a eu grève de la faim, d'ailleurs, au centre de détention de Laval. On va essayer de vous résumer ça. Le point sur les expulsions des personnes migrantes avec différents exemples un peu partout dans le monde. Un suivi sur la situation en Inde qui est fort complexe par les temps qui courent. Et comme la dernière fois, on va vous faire des suggestions culturelles ou documentaires en cette période bien triste de distanciation physique. Évidemment, on aura aussi, comme d'habitude, de la bonne musique pour vous. Avant de vraiment commencer l'émission, le racisme n'est pas sur pause actuellement, contrairement à beaucoup de pans de la société. Le racisme n'arrête jamais. Donc, beaucoup de racisme anti-asiatique a été observé dernièrement. Des agressions, des insultes, beaucoup de vandalisme dans des lieux de culte, dans des commerces. Puis, il y a eu transfert ensuite, si je peux dire, de la haine vers la communauté juive, en particulier hassidique, disant que les Juifs ne respecteraient pas les consignes de la santé publique comme si c'était juste eux, comme si c'était noir et blanc avec des bons, nous, et des méchants, eux autres. Bref, c'est la mécanique du racisme dans sa simplicité habituelle. Ce racisme-là, on le lit, on l'entend, on le voit, et c'est pour ça qu'on tient à saluer une belle initiative prise par le REPAC. C'est le regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, qui était fin mars, c'est un peu passé dans le beurre cette année, le REPAC a lancé toute une série de fiches d'informations super bien faites sur comment réagir au racisme, comment le dénoncer, comment le combattre, ce racisme en temps de crise. Vous pouvez trouver ça assez facilement en ligne en cherchant le REPAC, R-E-P-A-C. Dans un petit instant, on commence pour vrai l'émission avec Mathieu, qui va nous parler de l'offre de service aux personnes migrantes pendant la période particulière qu'on vit actuellement. Vous êtes à l'écoute des Apatrides Anonymes sur choc.ca.
Bonjour. Comme premier sujet, je vais vous parler de l'accès aux services pour les personnes à statut précaire dans le contexte de la pandémie. Donc, un petit état des lieux, des problèmes d'accès, de ce qui n'est pas fourni, ce à quoi les gens n'ont pas droit ou devraient avoir droit, et aussi quelques revendications en lien avec ces services-là. Donc, premièrement, en santé, services sociaux, je commence avec l'ACCESS, qui est l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité en santé et services sociaux, qui regroupe à peu près 130 organisations communautaires dans la région de Montréal en particulier, qui dès fin janvier a alerté la ministre McCann de la Santé pour lui dire qu'il faudrait avoir de l'information sur le virus, sur les mesures de prévention dans plusieurs langues, parce qu'il y a des gens au Québec, à Montréal, qui ne parlent pas ni français ni anglais, qui ne regardent pas les médias nationaux. Donc, pas de réponse. Donc, cette association-là a décidé de produire elle-même de l'info en 25 langues, des dépliants, des affiches, des liens vers des sites Internet, de la documentation sur Internet. A décidé avec ses organismes de distribuer les dépliants dans des lieux communautaires, de faire du porte-à-porte dans certains quartiers. Finalement, fin mars, le cabinet de la ministre a décidé de répondre et de travailler avec l'organisation. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment, quoi, avec quel financement. Au niveau des tests de dépistage, depuis la mi-mars, officiellement, c'est accessible à tous et tous, peu importe le statut et la couverture d'assurance maladie. Aussi, fin mars, donc, le ministère a annoncé, bon, un peu en catimini, ils l'ont pas fait dans une grosse conférence de presse, qu'il allait payer pour les soins en lien avec le COVID, mais aussi pour les autres soins pour les gens sans statut. Donc ça, c'était quand même une avancée intéressante, qui est malheureusement peut-être juste temporaire, mais qui est une demande historique de 25 ans de plusieurs groupes, dont la table de concertation pour les organismes, des organismes qui travaillent auprès des réfugiés et des immigrants. Donc on verra si c'est temporaire ou pas. Faudra peut-être se battre là-dessus ou se battre là-dessus éventuellement, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Médecins du monde qui aussi demande beaucoup de choses et d'accord avec cette avancée-là au niveau des soins de santé couverts, rappellent qu'ils doivent continuer, eux, à suivre les personnes sans statut avec qui ils ont un lien au niveau des services de santé, services sociaux. Mais ils rappellent que les gens ont souvent la crainte de payer quand même, malgré les annonces, d'être dénoncés à l'immigration s'ils se rendent dans des services publics, que plusieurs d'entre eux ont des maladies chroniques, une santé fragile, que les soins sont pas toujours une priorité quand on est en mode survie, qu'on travaille de façon informelle, donc des enjeux quand même à rappeler. Au niveau du revenu, peut-être vous dire que le Migrants Rights Network est un réseau pan-canadien, a sorti un communiqué à la fin mars en disant que la prestation canadienne d'urgence doit soutenir les travailleurs et travailleuses migrants et informels, indépendamment du statut d'immigration, du statut professionnel antérieur. C'est quand même assez important parce que des gens excluent cette prestation-là et des autres programmes qui ont été annoncés. Donc, ils demandent de ne pas exclure les travailleurs et travailleuses sur la base de leur numéro d'assurance sociale ou de leur statut, de ne pas exiger des déclarations d'impôts ou de revenus 2019, et de garantir qu'aucune information n'est partagée, ne sera partagée avec les services de l'immigration. Donc, c'est un réseau qui est actif partout au Canada, à Montréal, Toronto, Kelowna, Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Halifax. Donc, le Migrant Rights Network, qui a beaucoup d'informations sur son site d'ailleurs. Autre point intéressant, la solidarité communautaire. Solidarité sans frontières nous rappelait le 15 mars dernier d'être vigilant, d'être... attentif aux personnes plus précaires dans nos voisinages, dans nos communautés, ceux et celles, entre autres, qui peuvent pas s'absenter du travail, ceux et celles qui n'ont pas de jours de maladie payée, de vacances payées ou d'assurance salaire, ceux et celles qui travaillent dans des milieux où la santé, la sécurité de travail est difficile, les problèmes d'accès à la santé pour certaines personnes, comme on a parlé, des gens qui ont des postes, des services dits essentiels, mais difficiles, comme l'entretien, le ménage, la restauration, l'alimentation, et évidemment ceux et celles enfermés dans les centres de détention, dont ça, on va en parler tantôt. Donc, d'avoir un réflexe pour des gens plus précaires, d'aller vers eux et vers elles si possible. Si vous voulez vraiment donner un coup de main officiellement, Solidarité sans frontières invite les gens à être bénévoles, à être volontaires pour des actions de solidarité, entre autres offrir du support moral et social, faire des commissions, accompagner un rendez-vous médical. Vous pouvez leur écrire et ils vont vous mettre en contact avec des gens. Sinon, au niveau des revendications, ben SSF demande évidemment une amnistie générale et immédiate pour toutes les personnes, et pas juste temporaire, parce qu'on sait que la suspension des déportations a été décrétée le 17 mars, mais c'est temporaire. Donc, on aimerait ça que ça soit de façon permanente. Il est demandé aussi par SSF d'avoir... la libération immédiate de toutes les personnes incarcérées dans les centres de détention pour migrants, ce qui a été fait en partie, et qu'il y a aussi un suivi pour offrir un logement sécuritaire à toutes ces personnes-là. Et aussi, SSF demande de mettre fin à toutes les procédures de suivi obligatoires qui forcent les personnes à rencontrer leur agent d'immigration, à se déplacer, à se rendre dans des bureaux, que c'est pas nécessaire dans le contexte actuel. Sinon, vous dire aussi que le groupe canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient a aussi une autre revendication qui est au niveau plus international, il demande au gouvernement canadien de débloquer de l'argent pour une aide internationale pour, entre autres, les camps de réfugiés où la pandémie se développe, où le virus se propage, en particulier ceux et celles des Palestiniens et Syriens au Moyen-Orient qui sont vraiment mal pris actuellement et qui sont maintenant atteints par cette pandémie. Et peut-être finir en vous disant que le 4 avril dernier, c'était la 35e journée des droits des réfugiés au Canada. Et que malheureusement, cette journée a été un peu assombrie par l'annonce quelques temps auparavant de la fermeture de la frontière et du renvoi automatique des migrants dits irréguliers qui passaient par la frontière américano-canadienne. Donc, voilà pour un peu un petit topo des services, des enjeux qu'il y a autour, très, très pratico-pratique au niveau de la pandémie pour les personnes en statut précaire. Donc, je reviens plus tard pour un micro, une chronique sur la grève de la faim au centre de détention de Laval. Merci.
Merci Mathieu. On vous revient dans 3 minutes avec un segment spécial sur les prisons pour personnes migrantes en temps de crise sanitaire. On va aller en musique avec Hugo TSR, la pièce « Fenêtre sur rue ». Sur choc.ca, c'est toujours l'émission des apatrides anonymes du 9 avril 2020.
Loué dans un appartement de 2 pièces n'ayant rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre ce qui se passe chez les voisins.
Il est 15h, je suis réveillé par le bruit de la vaisselle. Le réveil est sec, je me frotte les yeux, putain j'ai v'là les cernes. La chambre a pas de serrure, mais c'est une cellule comme ma freine. Je regarde pas la télé, moi j'ai mieux que ça, j'ai ma fenêtre. Y'a ce gamin crade, il veut pas juste une clope, mais l'intégrale c'est un détail. Un de ces gars toujours dans le coin en train de t'égras. Il check les grands du check, ils sont toujours à cette terrasse. Ils vendent pas des CD draps, que crasser c'est etc. Un client s'approche, hey, il fait genre il veut du feu. Il demande un truc, il a une gueule d'intrus.
Non, on a pas ce que tu veux.
Un clochard passe à ceux qu'on n'avait pas vu depuis des mois. Tout le monde le pensait mort. Normal, il est trop pauvre pour avoir mis les voiles. Au restaurant du coin, table 6, toujours le même type. Il venait avec sa femme, plus qu'à l'état, il fait l'amnésie. Qui prend en continu, les yeux rivés sur la jeunesse. Très peu d'espoir, voilà ce que je vois par ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Il est 21h, je rentre chez moi, j'ai pas de sous pour le grec. Mais avec un bout de steak, un paquet de pâtes, je te fais un tour de maître. Les darons m'embrouillent
pour mériter ça. Qu'est-ce qu'on a fait?
Je me donne 15 minutes, je roule un minus et direction la fenêtre. Là je vois un petit qui se cache pour fumer sa conso. Il a pas de chance, son grand frère c'est mon sauce. Les lampadaires s'allument, les enseignes s'éteignent. Y'a cette fille qui ressemble à une ex, mais non, c'est elle, elle qui racontait.
Moi je me barre, je reviens jamais dans ces cas.
Elle café dans des cars, elle fait la belle, mais toujours en l'air gars. Un mec lui demande la route, elle se penche fatalement. Il a un argument, Audi A4, plaque allemande. C'est un grand du tchécar voisin avec lequel y'a des tensions. Pour une histoire de vagin, il peut y avoir des morts, des mecs en zonze. Une bouteille tombe, le mec s'est mangé des éclats. Ah, oui, j'arme la fenêtre, j'entends le voisin qui a demandé les ch'tards. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir. 4h du match, dis au revoir aux escaliers de la tour. J'suis bourré, rien à foutre, j'laisse des flaques et des tacs sur la route. J'arrive chez moi, un pote revenu de Meda nous a lâché de la fraîche. J'ai pas envie de pénard, mais le joint est là, donc j'me mets à la fenêtre. Le sort du PMU est à demi-baissé. Un mec en sort en sang, il prend la rue pour des WC et méché. Sorti par le barman, j'ai ma classique. Ce soir, il s'est fait masser pour une histoire de blague raciste. Tout est fermé, à part l'épicier et le terre-terre. Vu qu'il y a des schlags H24, les mecs du hall sont déter. Prêts à tuer comme à l'abattoir, d'un coup ça crie. Hey, pars-toi ! J'comprends enfin la scène quand je vois la voiture de la BAC. Noirière, mec au pied du team en bas. Ça fait 1 heure qu'il siffle en balle. L'interphone est en panne et un voisin lui crie. Vas-y, remballe ! Et puis y'a ce daron triste qui colle des feuilles pour retrouver sa fille. Si je reste encore 1 heure, j'assisterai au réveil de ma ville. Au réveil de ma ville. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Encore un coup de marqueur, voilà où je vis ma vie. Je connais par cœur, j'ai la rue en vis-à-vis. Rue de la Chapelle, drôle d'ambiance, faut tenir le coup. Peu importe l'heure,
je l'ai sur rue.
2012,
je l'ai sur rue.
Aux apatrides anonymes sur choc.ca, on écoutait la pièce « Fenêtre sur rue » de l'album du même nom paru en 2012 du rappeur indépendant et graffeur français Hugo TSR. Comme vous le savez peut-être, il y a eu une grève de la faim entamée par plusieurs migrants détenus à la prison de Laval, prison qui s'appelle officiellement le Centre de surveillance de l'immigration. Ça fait longtemps que plusieurs individus, plusieurs groupes de pression, de défense de droits revendiquent la fermeture des 3 prisons pour migrants au Canada. Les 2 autres sont à Toronto et Vancouver. Donc, ce qui est revendiqué, c'est l'arrêt des détentions des personnes migrantes, personnes qui, il faut le rappeler, ne sont pas des criminels. La grève de la faim qui a été déclenchée par plusieurs migrants détenus à Laval, c'est vraiment dans le contexte de la crise sanitaire où on requiert plus d'isolement et des mesures d'hygiène exceptionnelles, des conditions qui ne peuvent pas être rencontrées dans un environnement carcéral. On le sait, tout ce qui est confiné, ça empêche d'appliquer les directives des directions de santé publique. On le voyait lors de la dernière émission, ce que la situation actuelle peut vouloir dire dans des environnements clos. On donnait l'exemple des camps de réfugiés en Grèce ou de Gaza, où on appréhende des catastrophes dans les semaines à venir. Tantôt, Mathieu vous présentera la situation qui a cours à la prison de Laval, mais juste avant, on va faire un tour rapide de certains pays, voir qu'est-ce qui se passe sur la question des prisons pour personnes migrantes. D'abord, il y a l'ONU qui viole au commissaire aux droits de l'homme Michel Bachelet, qui a appelé à la libération urgente de détenus. Attention, pas des détenus, mais de détenus, de certains d'entre eux et elles, par exemple les plus vulnérables, les plus âgés, les malades. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, pour sa part, appelle tous les États membres de l'Union européenne à libérer toutes les personnes migrantes qui sont en détention administrative. Donc, libérer toutes les personnes détenues, point. Le Royaume-Uni, de son côté, il va par vague. Dans la semaine du 5 avril, on avait libéré environ 300 personnes détenues, soit, selon le Guardian, environ le quart de toutes les personnes migrantes détenues au Royaume-Uni. Le Portugal va pas mal plus loin. On ferme tous les centres de détention pour personnes migrantes et on donne un statut temporaire de résident permanent à toutes les personnes en attente de statut. Question de donner accès aux services de santé à tout le monde, sans exception. En France, comme ici, il y a aussi eu des grèves de la faim pour exiger la libération de toutes les personnes migrantes qui sont détenues dans ce qu'on appelle là-bas les centres de rétention administrative. Donc, on a pris détention, on a changé une lettre, on a changé le D pour R et on dit rétention. Ça sonne un peu moins comme une prison. Bref, au moment d'enregistrer ce segment, le gouvernement français n'avait pas envoyé de consigne aux préfectures qui gèrent les prisons pour migrants. Donc, les détentions se poursuivent d'habitude en France. Plusieurs groupes militants comme la CIMAD organisent toutes sortes d'actions pour tenter de faire plier les autorités sur cette question-là. Aux États-Unis, il y a officiellement 37 000 détenus dans les prisons pour personnes migrantes gérées par le ICE. Donc, un peu la même chose qu'en France, on ne semble pas vouloir libérer les personnes, mais simplement modifier certaines mesures d'hygiène à l'intérieur des établissements. Au moment d'enregistrer l'émission, il commençait à avoir des détenus testés positifs au coronavirus. En fait, on prenait connaissance des tout premiers cas et malgré tout, le fédéral Washington n'avait pas encore bougé, ne s'était même pas prononcé sur la question. Donc voilà, c'était quelques exemples dans le monde de comment les gouvernements réagissent à ces appels pressants et plus urgents que jamais de fermer les prisons pour personnes migrantes. Au Canada, on bouge un peu, mais somme toute très lentement. Suite à la grève de la faim à la prison de Laval et tous les appuis qui ont été générés, ben quelques personnes détenues ont été libérées. Mathieu va vous en parler dans un très court instant.
Donc, en deuxième temps, je vais vous parler de la grève de la faim qui a eu lieu au Centre de prévention de l'immigration de Laval. C'est bien le terme, qui a duré en tout et partout 8 jours. Tout a commencé le 16 mars avec l'interdiction des visites aux détenus par les proches, les avocats, les avocates, les supporters, sympathisants. Faut dire aussi que le contexte de la prison de Laval, c'était qu'il y avait un va-et-vient assez important des détenus qui partaient, qui revenaient, hommes, femmes, enfants, évidemment, sans avoir été testés, sans qu'il y ait d'isolement préventif. Donc, le 19 mars, il y a 34 détenus, hommes et femmes, qui ont décidé d'écrire au ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, une pétition pour leur demander d'être libérés ou à tout le moins de mettre des conditions propice à la prévention de du virus. Toujours pas de réponse le 24 mars, donc les gens décident, les gens, 10 hommes sur 30 qui sont présents dans l'aire commune, décident de partir une grève de la faim parce que, il n'y avait pas de réponse du tout de la part du fédéral, de l'agence des services frontaliers, mais les pressions ont commencé de l'agence par le biais des médecins qui donnaient des rendez-vous, mais finalement qui voulaient convaincre les gens d'arrêter la grève. Les gardiens faisaient de la pression. Ils ont isolé certains « leaders », entre guillemets. Il y a eu des promesses de mesures préventives qui n'ont pas été réalisées. Donc, 3 jours plus tard, le 27 avril, il restait seulement 4 personnes en grève de la faim. Donc, les mesures d'intimidation avaient quand même fonctionné, Il y a sûrement d'autres raisons aussi. Le 28 mars, il y a eu une conférence de presse assez couverte par les médias avec plusieurs organisations de partout au Canada qui ont participé. Et ça expliquait vraiment le contexte, qu'est-ce qui se passait. Ça a donné un coup de pouce aussi aux grévistes de la faim et ça a mis de la pression sur le fédéral. On va écouter une des participantes, Alexandra Pierre, de la Ligue des droits et libertés, qui nous explique un peu c'est quoi les dangers de maintenir des gens dans un lieu isolé en temps de pandémie.
Bonjour, merci d'être présent. Et présente, la Ligue des droits et libertés demande au gouvernement, à l'instar de tous les autres collègues, demande au gouvernement Trudeau de prendre des mesures urgentes afin de contenir la propagation du COVID-19 en diminuant la population carcérale dans les lieux de détention et dans ce qui est appelé les centres de surveillance de l'immigration, comme celui de Laval où a lieu cette grève de la faim. Il faut qu'on sorte les détenus de toute urgence. Et il faut qu'on empêche que d'autres entrent en détention pour éviter une catastrophe sanitaire. Enfermer des personnes qui, par exemple, demandent refuge au Canada ou dont les papiers sont venus à échéance, c'est déjà une violation majeure de leurs droits fondamentaux et des engagements humanitaires du Canada. En plus, dans le contexte de la crise sanitaire, on bafoue leurs droits à la sécurité, à la santé et dans le cas du contexte du coronavirus, c'est leur droit à la vie qu'on bafoue. C'est inacceptable. Quand on sait que les prisons et les autres lieux de détention sont un terreau extrêmement fertile pour la propagation de la COVID-19, il y a de quoi être très, très, très inquiet. Au centre de surveillance de l'immigration de Laval, qui est dans les faits une prison pour migrants et migrantes, les mesures de distanciation sociale sont impossibles à respecter dans le contexte de la surpopulation de cette institution-là. On peut aussi douter de la préparation du personnel s'il y a une éclosion de cas de personnes infectées par le coronavirus. Comme l'a mentionné la collègue tout à l'heure, le Canada est tenu par plusieurs engagements internationaux, il faut le rappeler. Plusieurs engagements envers le droit à la santé, le droit à la sécurité, mais aussi concernant la vie des personnes détenues et du personnel des lieux de détention. SAFA de Solidarité sans frontières l'a mentionné tout à l'heure aussi. Mercredi, l'ONU a fait un communiqué de presse qui exhortait les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention. L'ONU a aussi fait remarquer que plusieurs pays ont déjà pris des mesures dans ce sens-là. Donc, il n'y a aucune raison pour que le Canada ne fasse pas de même. Pour éviter une catastrophe pour la santé publique, comme pour la santé des détenus, surtout pour la santé des détenus, il faut sortir ces personnes de la détention. Et évidemment, une fois libérées, ces personnes-là doivent avoir accès à un suivi médical adéquat. Merci.
Donc, après la conférence de presse du 28 mars, il y a eu un début de libération là au compte-gouttes. Le 1er avril, il y a 2 grévistes sur 4 qui ont été libérés. Donc, la grève a été suspendue par les 2 autres. À ce moment-là, il restait 22 personnes toujours détenues dans l'aire commune. Le 2 avril, le 3e gréviste a été libéré. Le 6 avril, le 4e et dernier gréviste a été libéré. Il restait 19 détenus à ce moment-là. Ça, c'est la situation au 6 avril. Il faut dire que l'agence et le fédéral n'ont pas décidé de libérer les gens de façon massive. Ils ont décidé de faire passer à chaque détenu, chaque migrant détenu, une audience de révision de détention devant la commission de l'immigration du statut de réfugié. Donc, c'est pour ça que c'est long et que c'est pénible. Mais en plus, ils libèrent les gens, mais ils ne retrouvent pas d'hébergement. Donc, c'est les sympathisants, sympathisantes qui doivent s'organiser avec ça, trouver des solutions. Donc, peut-être vous dire que cette grève-là, il y a quand même un écho assez intéressant un peu partout au Canada. Ça a été la seule, à ma connaissance, grève de la faim dans une prison pour migrants, puis même dans une prison générale au Canada. Et ça a quand même porté ses fruits. Il y a eu des gens de libérés. Ils ne le sont pas tous et toutes pour l'instant, malheureusement. Mais je vous invite pour le suivi à aller sur la page Facebook ou sur le site Internet de Solidarité sans frontières pour les infos complémentaires. Et aussi, on va terminer avec Abdoul, qui était porte-parole des grévistes de la faim, qui a envoyé plusieurs messages pendant cette grève. Et on va écouter son message une fois libéré, donc dans les derniers jours.
Bonjour, c'est Abdoul. Tout d'abord, au nom de tous les détenus, j'aimerais remercier l'ensemble des organismes et des personnes qui appuient notre combat. La plupart des grévistes, dont moi-même, ont été libérés. Cependant, le combat continue car il reste encore une vingtaine de personnes détenues au centre de Laval. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons redoubler d'efforts pour faire libérer tout le monde.
C'était notre dossier d'actualité sur les centres de détention pour personnes migrantes à l'émission des apatrides anonymes sur choc.ca. Dans un petit moment, autre dossier d'actualité en complément de celui sur les détentions, on va regarder avec Marie-Ève qu'est-ce qu'il en est des expulsions des personnes migrantes dans différentes régions du monde en cette période de pandémie.
Le 20 mars dernier, le gouvernement fédéral a annoncé que les personnes qui franchissent irrégulièrement la frontière canado-américaine pour présenter une demande d'asile au Canada seront désormais renvoyées aux États-Unis, et ce, tant et aussi longtemps que la crise de la COVID-19 se poursuivra. Le problème, c'est que Washington prévoit renvoyer les personnes migrantes refusées par le Canada dans leur pays d'origine. Concrètement, ça veut dire que le Canada expose ces personnes au danger d'être soumise à une détention aux États-Unis ou encore d'être expulsée vers une destination où elle risque la persécution. Dans les deux cas, leur droit à la sécurité et à la vie est mis en danger et ça contrevient au terme du préambule de la Charte des Nations Unies. Quant aux États-Unis, les autorités américaines ont annoncé une mesure similaire concernant la frontière avec le Mexique où les migrants provenant de ce pays y seront refoulés, incluant les mineurs non accompagnés. Le traitement que l'Amérique du Nord a décidé de réserver aux demandeurs d'asile m'a incité à me tourner vers l'autre côté de l'Atlantique pour voir si les pays de l'Union européenne ont opté pour la même logique d'expulsion. Vous verrez que dans la plupart des cas, la situation est similaire, voire pire dans certains pays. Mais avant de me pencher sur des exemples concrets de la façon dont l'Europe traite les demandeurs d'asile en ces temps de COVID-19, je trouve important de dresser un bref portrait de la situation aux frontières de l'Union européenne, où les conditions sanitaires sont désastreuses et où la violence perdure. Commençons d'abord par la Libye, où les frontières sont fermées depuis le 17 mars et où la situation sur place demeure chaotique et violente, particulièrement pour les personnes exilées, comme on peut s'y attendre. Dans un rapport sorti à la mi-mars, une association italienne souligne que 85% des personnes passées par la Libye et interrogées par ses équipes ont souffert de torture, de violences et de traitements inhumains et dégradants, certaines ayant même été kidnappées ou placées dans des situations où leur vie était en danger. Et ça, c'est sans compter que depuis la mi-mars, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, a réduit une bonne partie de ses activités, dont les visites en centre de détention et la fermeture de leur centre d'enregistrement de Tripoli. Le HCR a même suspendu jusqu'à nouvel ordre les programmes de réinstallation de personnes réfugiées à travers le monde. Tournons-nous maintenant vers la mer Méditerranée, où les opérations de sauvetage solidaire d'ONG sont en grande partie suspendues depuis la fin février pour la plupart, mais une autre partie depuis la fin mars. Les refoulements en pleine mer continuent, par exemple autour de l'île de Malte, où les autorités maltaises collaborent avec les gardes-côtes libyens pour qu'ils viennent récupérer les bateaux. Ce qui pousse les personnes exilées vers l'enfer des lieux d'enfermement libyens, comme je viens d'en parler. Ces refoulements-là brisent plusieurs règles du droit international, dont le principe de non-refoulement et le renvoi vers des États où il existe des risques de traitement inhumain et dégradant. Si on va maintenant vers la frontière gréco-turque, d'un côté, il y a la Turquie qui a cessé de « contenir » entre guillemets sur son territoire les personnes exilées, et de l'autre, la Grèce a suspendu l'accès à l'asile et à son territoire. L'Union européenne, quant à elle, répond comme on peut s'y attendre, principalement par le renforcement des contrôles aux frontières extérieures, avec le déploiement plus important de l'agence Frontex. Il y a 42 000 personnes qui seraient actuellement bloquées dans les 5 hotspots ou points chauds des îles grecques. Sur l'île de Lesbos, par exemple, les organisations qui interviennent habituellement dans certains camps ont un accès réduit aux personnes pour une période de 14 jours seulement. Cette situation-là, qui est catastrophique, a incité le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits fondamentaux des migrants à rappeler la Grèce à ses responsabilités concernant à la fois les violations des droits aux frontières maritimes et terrestres, mais aussi les violences dont font l'objet les soutiens des personnes exilées et les journalistes, ou encore sur la suspension de la possibilité de demander l'asile. Le Parlement européen a également réagi en demandant l'évacuation des personnes vulnérables et de nombreuses ONG grecques et européennes demandent la fermeture des camps et la prise en charge des personnes exilées. Finalement, si on va sur la route dite des Balkans, les frontières se ferment là aussi en raison de la pandémie. La Serbie est en état d'urgence COVID-19 depuis le 15 mars, sans mesure de confinement en journée pour les ressortissants serbes, excepté les personnes malades, mais aussi avec un couvre-feu. Mais les personnes exilées et hébergées, elles, doivent avoir une permission pour sortir de leur lieu d'hébergement. L'armée a été déployée pour faire des contrôles, notamment à la frontière avec la Croatie. Et en Bosnie, qui accueille actuellement environ 7000 personnes qui demandent l'asile, les conditions de vie dans les camps sont indignes et les médecins sont vraiment inquiets parce que si des cas de COVID-19 y apparaissaient, pour l'instant, en tout cas, rien n'est organisé pour permettre un confinement correct. Alors, c'est un peu ce qui clôt, si on veut, mon survol de la situation qui prévaut aux frontières de l'Union européenne et sur les principales routes qu'empruntent les demandeurs d'asile. Au retour de la pause musicale, je vais vous présenter des exemples concrets de la façon dont les pays européens traitent les demandeurs d'asile en ces temps de COVID-19.
On va entendre la pièce « Sleep Machine » de Jenny Owen Youngs. Comme la première pièce, ça date aussi de 2012 et c'est sur l'album « An Unwavering Band of Light ». Simon Micro, au retour, Marie-Ève va compléter son dossier international sur les expulsions de personnes migrantes. On écoute Jenny Owen Youngs.
Sign.
C'était la pièce Sleep Machine de Jenny Owen Youngs. Je cède de nouveau le micro à Marie-Ève.
Je commence mon tour d'horizon de la façon dont les pays européens traitent les demandeurs d'asile en ces temps de pandémie par la France, qui est sans doute le pire d'entre tous. Effectivement, depuis le 16 mars, les autorités françaises expulsent allègrement des personnes migrantes, soit dans leur pays d'origine, soit dans le premier pays d'entrée en Europe dans le cadre du règlement Dublin dont je vous ai déjà parlé. On peut constater des renvois depuis les centres de rétention administrative vers le Maroc, l'Algérie, le Congo, le Mali, le Sénégal, la Roumanie, la Géorgie et même les Pays-Bas, qui est un pays, ça c'était pour une personne dublinée. La situation est quasi similaire dans ce qu'on appelle les zones d'attente pour les étrangers, dans les aéroports ou les ports, où les refoulements d'étrangers se poursuivent aussi malgré le risque d'infection dans les pays d'origine. Bon, même si les expulsions sont moins nombreuses qu'en temps normal, reste qu'elles entrent en contradiction totale avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui appelle les États touchés par la pandémie à limiter l'exportation, excusez-moi les termes, là, parce que on parle bien de personnes, mais ce sont les termes de l'OMS, donc de limiter l'exportation et l'importation du virus. Et pire encore, les autorités françaises continuent d'accompagner les personnes migrantes interceptées sur le territoire français jusqu'à la frontière italienne dans le nord, c'est-à-dire vers l'une des régions les plus touchées au monde. Ces personnes-là rentrent ensuite à pied en Italie et se dispersent dans les villes sans être contrôlées et surtout sans savoir si elles sont porteuses du virus. De son côté, la préfecture des Alpes-Maritimes se contente de jouer sur les mots et affirme qu'il ne s'agit pas d'une procédure d'expulsion, mais d'une, et j'ouvre les guillemets, procédure de non-admission sur le territoire national. On s'entend que c'est la même maudite affaire. Côté italien, à cause de la pandémie de coronavirus, la plupart des ONG d'aide ont suspendu leurs activités à Ventimille notamment, qui est la principale ville où sont transportées les personnes migrantes interceptées. Il reste seulement le camp de la Croix-Rouge qui accueille 250 personnes, qui est en périphérie de la ville, et certaines équipes réduites de Caritas, qui est un organisme de bienfaisance, si on veut, qui effectue des distributions alimentaires et de vêtements à proximité de la gare, à 2 km du camp. Quant à l'équipe française de Médecins du Monde, elle n'est plus autorisée à passer la frontière pour soigner les personnes migrantes en Italie. Tout ça est d'autant plus inquiétant que les associations françaises, elles sont pas les seules, mais rapportent que les conditions d'hygiène sont désastreuses pour les personnes migrantes retenues par la police des frontières avant leur expulsion. Dans le cas français, elles sont maintenues enfermées la nuit précédant leur refoulement dans une très forte promiscuité à l'intérieur de conteneurs de 10 à 15 mètres carrés. Ensuite, on se tourne vers l'Allemagne qui, elle, fait moins piètre figure. Les autorités allemandes avaient suspendu fin février les renvois vers l'Italie. Au moins ça. Depuis, le pays a opté pour une attitude qu'on pourrait qualifier de mitoyenne, c'est-à-dire qu'ils ont mis sur pause les renvois de demandeurs d'asile vers d'autres pays européens, toujours dans le cadre là, du règlement Dublin, mais ils continuent les expulsions, ou en tout cas rendent toujours possibles les expulsions vers des pays tiers. La seule exception à ce jour, c'est l'Afghanistan. La semaine dernière, le gouvernement allemand a enfin annoncé un moratoire jusqu'à nouvel ordre des expulsions vers ce pays-là, des demandeurs d'asile déboutés. Rappelons que l'Allemagne avait commencé en 2016 à mener des expulsions vers l'Afghanistan. Donc, le dernier vol charter transportant des demandeurs d'asile déboutés vers Kaboul date du 12 mars. En tout, c'est 907 hommes qui ont été renvoyés vers l'Afghanistan depuis 2016, malgré le niveau d'insécurité qui règne dans ce pays, en proie aux violences et aux attentats quotidiens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces expulsions font régulièrement débat en Allemagne, mais aussi parce que la décision d'expulser relève de la compétence des régions. Certaines États-régions, par exemple, expulsent uniquement les personnes coupables de crimes, alors que d'autres, comme la Bavière, renvoie quasiment tous les hommes afghans dont la demande d'asile a été rejetée. Le seul pays qui semble avoir pris acte de l'urgence de la situation pour les demandeurs d'asile et faire preuve d'humanité, c'est le Portugal. Les pouvoirs publics portugais ont pris la décision de régulariser temporairement les personnes migrantes en attente de titre de séjour et les demandeurs d'asile. Et cette décision-là, en fait, est en vigueur depuis le 30 mars. Mais le gouvernement va même plus loin en se montrant véritablement solidaire de leur sort. C'est-à-dire que pour ces personnes, il leur suffira, elles auront seulement à fournir l'attestation justifiant la requête auprès du service de l'immigration pour bénéficier des mêmes mesures qui ont été prises pour l'ensemble des citoyens du Portugal dans le cadre des mesures là face à la COVID-19. Par exemple, comme la prise en charge domiciliaire en cas de symptômes ou en cas de garde d'enfants, puisque les écoles sont fermées, mais aussi pour bénéficier des mesures de protection de l'emploi, du salaire, qui sont destinées à diminuer l'impact économique de l'épidémie. On s'attend à ce que le processus normal de régularisation au Portugal reprenne pour le 1er juillet, mais ça pourrait être reporté. Quelques chiffres peut-être avant de conclure. On ignore le nombre de personnes migrantes ou de demandeurs d'asile qui ont des demandes en cours d'examen au Portugal. Les statistiques officielles montrent que 580 000 personnes immigrantes vivaient au Portugal en 2019, un record, et que 135 000 personnes ont déjà obtenu un droit de séjour dans le pays depuis le début de 2020. Bref, dans un contexte où les expulsions des personnes migrantes sont la norme plutôt que l'exception, j'aimerais terminer ce micro en soulignant le caractère contradictoire et hypocrite des appels à la solidarité que les gouvernements lancent à la population de leurs pays respectifs. La solidarité dont ils parlent ne s'applique clairement pas à tout le monde également, sans compter qu'ils nous exhortent en même temps à se dénoncer les uns les autres. Bref, pour moi, la solidarité n'est pas un concept à géométrie variable.
Merci beaucoup, Marie-Ève, pour ce dossier assez exhaustif. On poursuit cette émission préenregistrée avec Mathieu, qui tenait à revenir sur l'Inde, un pays qui nous a beaucoup intéressés dernièrement, notamment à cause de décrets gouvernementaux qui rendaient apatrides des grands pans de la population, en ciblant principalement les musulmans. Par le climat social, les relations interethniques, interreligieuses qui se sont beaucoup dégradées, bref, Mathieu nous amène en Inde.
Comme troisième sujet aujourd'hui, c'est toujours Mathieu qui est avec vous, je vais vous parler de l'Inde. C'est pas dans les actualités de la journée ou de la semaine, c'est pas relié non plus à la pandémie, on aime ça parler d'autres sujets aussi. Donc, il y a eu beaucoup d'actions en Inde, beaucoup de confrontations, beaucoup d'événements assez dramatiques dans les dernières semaines, derniers mois. Je vais revenir un peu là-dessus. Juste vous dire en partant que je suis un peu un groupe à Montréal qui s'appelle Inde Veille Civile Montréal ou Montreal Civil Watch India, donc qui a organisé plusieurs manifs dans les derniers mois autour des événements qu'il y a eu en Inde. C'est des gens entre autres originaires de l'Inde. Mais il y a quand même eu au mois de février, fin février, des pogroms. C'est quand même pas rien, là, on est en 2020. Donc peut-être pour revenir en arrière, vous expliquer un peu le tout pour ceux et celles qui ont moins suivi ça. Tout a commencé ou recommencé en 2019, parce qu'en Inde, c'est quelque chose de récurrent, des affrontements, de la répression. Deuxième mandat du gouvernement du BJP, de Narendra Modi, qui a eu une majorité parlementaire très forte, plus forte que pour le premier mandat en 2015, donc a décidé d'intensifier son fameux programme ethno-nationaliste hindou. En hindi, il appelle ça Hindutva, où on peut traduire librement par fascisme hindouiste. Donc, un autoritarisme généralisé et renforcé, avec comme cible principale les minorités du pays, dont les musulmans, qui est la plus grosse minorité, avec 200 millions d'individus, plus de 200 millions, et qui représentent 15% de la population. Donc, premier mandat était plus économique, le deuxième vraiment nationaliste au niveau de la répression, de la discrimination. Donc, élu en mai 2019, dès le mois d'août, ce gouvernement du BJP promulgue une loi sur le divorce qui vise les musulmans. Le 5 août, c'est la fin du statut spécial du Cachemire indien d'autonomie, qui est peuplé à majorité de musulmans. Donc, état d'urgence, répression, discrimination, arrestation, tout le kit. Toujours au mois d'août, le gouvernement de Modi décide de réactiver, de mettre en pratique le fameux registre national des citoyens qui avait été mis de côté depuis longtemps. Donc, on décide d'identifier les personnes qui sont vraiment indiennes, entre guillemets. On identifie dans l'État de l'Assam, qui est près du Bangladesh, 2 millions de personnes non indiennes. Donc, on décide d'en mettre une grande partie dans des camps de détention. Et depuis le mois d'août 2019, ça continue. Ensuite, ce qui a fait vraiment déborder le vase, vous vous en rappelez sûrement, Marie-Ève en avait parlé, c'est la réforme constitutionnelle du Citizenship Amendment Act, donc qui excluait les réfugiés musulmans et tamouls, en passant, donc les Afghans, les Iraniens, les gens du Bangladesh, s'ils étaient déjà sur le territoire et n'étaient pas musulmans, ils pouvaient avoir la citoyenneté, mais pas les musulmans, donc c'est vraiment discriminatoire, et ça remet en question toute la constitution laïque et interethnique indienne, multiethnique, on pourrait dire. Ça a vraiment fait déborder le vase. Il y a eu des manifs monstres pendant des mois, donc décembre, janvier, février. 8 janvier, grève générale de 250 millions de travailleurs et travailleuses. Ça a été le sommet de la mobilisation. Répression brutale dans ces mois-là aussi. Évidemment, comme d'habitude, au moins 31 morts, des blessés, des arrestations en masse. Les manifs se sont poursuivis quand même. Beaucoup de blocages de sit-in, beaucoup dans le milieu étudiant, beaucoup l'idée par des femmes. Donc, suite des manifs et du 24 au 26 février, pendant que Trump est en visite officielle à Delhi quand même, les milices du BJP avec d'autres alliés d'extrême droite ont décidé d'envahir les quartiers musulmans de Delhi et on parle de pogrom, donc de massacrer tout ce qui était possible, brûler, briser et endommager. Donc au moins 42 morts, 150 blessés graves au moins, des violences sexuelles, des mosquées, des commerces, des maisons brûlées, incendiées, avec l'appui ou l'indifférence de la police de Delhi. Donc ça a été un peu le sommet là, de cette espèce de vague-là depuis quelques mois. Ça rappelle malheureusement aux musulmans, entre autres, les massacres de masse qui ont fait des milliers de morts au Gujarat en 2002. Et à l'époque, en 2002, qui dirigeait le Gujarat? Bien évidemment, M. Narendra Modi. Ben, je ne devrais pas l'appeler monsieur, on va dire Modi tout court. Donc, on a déjà vu ça. C'est une répétition malheureusement. On aurait pu le prévoir. Et peut-être vous dire aussi, dans le contexte général, sans tomber dans la grande analyse pour l'instant, mais depuis 2015, depuis l'arrivée au pouvoir du BJP, il y a l'axe nationaliste, comme je vous disais, et aussi l'axe économique, politique économique ultra-libérale qui crée des inégalités, de la pauvreté, du chômage. Et évidemment, après ça, on trouve des boucs émissaires et c'est les minorités, entre autres Sikhs, entre autres Tamouls du Bangladesh, mais beaucoup les musulmans qui sont visés par ce gouvernement d'extrême droite. Donc, dans une autre chronique, peut-être à la prochaine émission, je pourrais vous parler un peu plus, je pourrais peut-être vous faire une analyse plus générale de ce qui se passe en Inde, pourquoi ce nationalisme extrémisme actuellement, d'où ça vient et ça répond à quoi. Donc, on pourra s'en reprendre une prochaine fois. Donc, voilà pour l'Inde. Merci.
Toujours Simon à l'animation de cette émission des Apatrides Anonymes du 9 avril 2020 sur choc.ca. L'émission achève. On a un dernier bloc pour vous. Un peu comme lors de la précédente émission, Marie-Ève va nous suggérer des films, des documentaires qu'on peut trouver en ligne. Donc voici pour vous, cher auditoire, Marie-Ève.
Pour cette deuxième édition des Apatrides Anonymes en période de confinement et de distanciation sociale, ou plutôt physique, je vous propose encore une fois une sélection de documentaires disponibles gratuitement en ligne et qui traitent de différentes réalités liées à l'immigration. J'ai choisi de consacrer ma chronique d'aujourd'hui à la maison de production et de diffusion montréalaise Multimonde, qui propose une sélection de documentaires tirés de sa collection du début des années 90 à aujourd'hui et qui mettent en l'honneur les travailleurs et travailleuses migrantes, cette main-d'œuvre qui est trop souvent oubliée au Canada. Le premier dont je vous parle s'intitule « Femmes d'ailleurs, enfants ici ». C'est un moyen-métrage qui porte sur ces milliers de femmes philippines qui viennent au Canada pour travailler comme aide familiale résidente et qui envoient une grande partie de leur salaire à leur famille restée derrière. Ces sommes-là représentent des milliards de dollars et sont même la principale source de devises étrangères des Philippines. On y constate que tous les sacrifices, l'exploitation et les abus aux mains d'employeurs sans scrupules, mais aussi d'agences de placement, ne changent absolument rien aux conditions qui poussent ces femmes à s'expatrier. Leurs filles, leurs sœurs les suivent d'une génération à l'autre. Ensuite, « Quand les étrangers se réunissent », documentaire qui aborde ce qui se passe quand, après des années de séparation, les travailleuses migrantes peuvent enfin faire venir leur famille pour les rejoindre au Canada. Devenus de véritables étrangers, les membres de ces familles-là doivent littéralement réapprendre à tisser des liens affectifs tout en s'adaptant à un milieu qui est souvent très peu accueillant. Tournée à Toronto, à Montréal et aux Philippines, ce portrait sincère et touchant présente trois familles sur la voie de la guérison. Troisième suggestion, la fin de l'immigration, point d'interrogation, parce qu'il s'agit bien d'une question. Quand on pense aux travailleurs temporaires, on a l'image des travailleurs agricoles qui viennent chaque année depuis 40 ans travailler dans les champs, ou encore, comme j'en ai parlé, des aides domestiques philippines. Mais aujourd'hui, les travailleurs étrangers temporaires se trouvent dans tous les secteurs, de la restauration rapide aux stations-service. Le Canada suivrait même l'exemple de Hong Kong et de l'Arabie saoudite, qui sont deux royaumes par excellence des travailleurs étrangers temporaires. La fin de l'immigration révèle une tendance qui, à terme, transforme le Canada en une société où il y a des citoyens avec des droits qui viennent avec et tous les autres. Autre suggestion, « Je serai là », qui est un documentaire qui nous transporte cette fois au Mexique, au cœur du quotidien de 5 habitants d'une petite communauté située dans l'État d'Oaxaca. Un paradoxe où la terre, qui est pourtant fertile, est de moins en moins cultivée parce que la concurrence américaine dévalue le prix du maïs mexicain. Donc, les paysans, pour subvenir à leurs besoins, doivent aller cultiver la terre des producteurs agricoles des États-Unis. De là le paradoxe. Enfin, un autre qui s'intitule « Call Shop Istanbul », qui est un long-métrage qui nous amène, comme son nom le dit, à Istanbul, porte d'entrée vers la terre promise de l'Europe pour les migrants d'Afrique et du Moyen-Orient. On y rencontre des réfugiés syriens et irakiens, mais aussi des clandestins d'Afrique noire qui se retrouvent dans des centres d'appel qu'on retrouve à tous les coins de la ville et qui constituent le seul lien avec la terre d'origine. Finalement, le documentaire « Bledi, notre pays est ici », qui nous ramène au début des années 2000 au cœur de la lutte des sans-statut algériens à Montréal. Petit rappel, dans les années 90, 40 000 Algériens ont fui leur pays, déchirés par la guerre, pour trouver asile à Montréal. Sauf que dans la foulée des attaques du 11 septembre 2001, beaucoup étaient menacés de déportation. Le documentaire suit donc leur mobilisation, des actions directes au lobbying, de leur victoire à leur déception pour arrêter leur déportation. Donc, restez à l'affût, je vous donne le site de Multimonde. Je vous rappelle que tous ces films sont disponibles en streaming. Multimonde au singulier centredunion.ca. Et restez à l'affût puisque d'autres films vont bientôt être disponibles sur leur site également. Vous pouvez aussi aller sur leur page Facebook. Alors, je vous souhaite un bon visionnement.
Et voilà, en ce 9 avril 2020, c'est déjà tout pour les Apatrides Anonymes, 24e édition sur choc.ca. Nos coordonnées, on peut nous écouter en balado sur choc.ca, évidemment, ou dans notre site web apatridesanonymes.info. On peut nous écrire sur apatridesanonymes à resist.ca ou via notre page Facebook. La prochaine émission est prévue pour le 23 avril. Il y a de fortes chances que ce soit encore préenregistré. On a très hâte de retourner en studio live, tout le monde ensemble, en direct. Petite parenthèse avant de vous quitter, je tenais à partager avec vous la souffrance de la première dame de France, Madame Brigitte Macron, qui, selon les médias français, vivrait très mal son confinement dans l'appartement présidentiel privé de 300 mètres carrés à l'Élysée, avec accès à des hectares de jardin à l'anglaise. Fin de la parenthèse. On va se laisser avec la pièce « Screaming » du trio punk rockabille montréalais The Brains. C'est tiré de leur album « Zombie Nation » paru en 2010. C'était Simon au micro pour les Apatrides Anonymes. Je tiens à remercier mes acolytes Marie-Ève et Mathieu. Merci de nous avoir écoutés et prenez bien soin de vous et de tous vos proches.
Screaming, I've been screaming all night. she dripped on the floor.